Trafic en grande escale. Trafic en grande escale.
2024.
C'est sur Radar.
Les interviews s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Nous sommes toujours en direct de notre studio mobile sur Radar. Vous êtes, on est dans Fécamp Grande Escale 2024, deuxième édition du nom. Et évidemment, on continue à aller chercher un petit peu à droite à gauche les gens qui sont sur les bateaux, les exposants, etc. Pour voir un petit peu, bah, justement, faire connaissance, rencontrer du monde. C'est un petit peu ça aussi le but de ce Fécamp Grande Escale. Bonjour monsieur qui est devant un micro et qui avait eu le plaisir de rentrer dans notre caravane et qu'on accueille avec grand plaisir. Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Wilfried Provost. Bonjour à vous, monsieur qui également est devant un micro dans la même caravane. Je suis ravi d'être ici. Je suis le patron d'Étoile Marine Croisière, qui est une petite entreprise de Saint-Malo, une petite entreprise bretonne, qui est propriétaire de plusieurs bateaux, dont trois sont sur la Fête.
Alors, trois qui sont sur la Fête et une entreprise qui a en fait pour vocation de restaurer, de remettre en œuvre. Comment ça se passe ? Quelle est la base de votre entreprise en fait ?
Alors, la base de l'entreprise, c'est de faire vivre, de faire perdurer ces beaux voiliers traditionnels, de partager avec le grand public notre passion pour la mer et les vieux gréements. Et évidemment, la question du faire naviguer et restaurer, elle est très très proche, puisque c'est des bateaux dont il faut s'occuper en permanence. La difficulté n'est pas d'être propriétaire de ce genre de bateaux, de les faire vivre dans la durée. Donc il faut trouver des projets qui leur permettent qui permettent à l'entreprise d'avoir suffisamment de ressources financières, qui permettent d'entretenir les bateaux chaque hiver, année après année. Et puis de partager avec le grand public.
Alors, on a l'habitude, la plupart du temps, d'avoir des associations qui se montent autour de vieux gréements pour restaurer, voire reconstruire. C'est le cas du bateau qui est juste en face de nous, où il a été reconstruit en 91. Et donc, la plupart du temps, en général, ce sont des regroupements de gens passionnés qui disent « Bon, bah, on va monter une asso pour essayer de lever des fonds pour pouvoir soit reconstruire à l'identique, soit restaurer quelque chose qui était déjà existant mais un peu délabré et puis qui fait partie du patrimoine. » Là, étonnamment, enfin, pour le coup, moi je suis étonné d'entendre que c'est une entreprise qui se lance là-dedans. En général, on fait plutôt appel au mécénat, on demande aux entreprises d'aider les associations, et là vous êtes carrément parti sur le mode entreprise. Pourquoi ce choix ?
Ah ben le choix c'est de trouver des solutions qui permettent de couvrir toutes nos charges par des recettes. Donc l'avantage de l'entreprise, c'est qu'on a de merci à dire à personne.
D'accord.
À part à nos clients.
Ouais.
Mais à nos clients, à nos passagers, on leur apporte un service en contrepartie de la rémunération qu'ils nous proposent. Et donc on est très indépendant. On peut avoir un mode de fonctionnement qui est probablement, évidemment, sans médire du tout sur le mode associatif, mais qui est beaucoup plus dynamique en matière d'exploitation, qui offre des capacités de faire des choses qui sont difficiles à faire dans un cadre associatif. Très concrètement, par exemple, deux années de suite, on a été avec Étoile du Roi à Malte pour tourner un film, ce qui nécessite d'avoir un bateau à la fois préparé, d'avoir un équipage professionnel en capacité à la fois au niveau des diplômes, de la technique et je dirais de la motivation de partir trois mois du port. Donc voilà, c'est un modèle qui est sans doute plus complexe, parce qu'il faut évidemment aller chercher l'argent qui fait vivre les bateaux, mais qui est aussi plus épanouissant d'une certaine manière, parce que ça permet de faire des choses.
Mais en termes d'offres de services, voilà, on parlait cinéma, mais il y a aussi possibilité de sortir de proposer, par exemple, j'imagine qu'il doit y avoir des séminaires ou des choses comme ça qui sont proposées à des clients.
Oui, alors un bateau comme Étoile du Roi, c'est un bateau qui cumule en fait des activités qui sont complémentaires les unes des autres. Saint-Malo est la ville bretonne la plus visitée, un tourisme de masse à Saint-Malo. Donc en été, l'activité principale d'Étoile du Roi, c'était en format musée.
D'accord.
Et d'ailleurs, peut-être visiter au quotidien. Tout ça se complète par des navigations pour des entreprises ou des particuliers.
Mmh.
Des mariages, des anniversaires, des entreprises, c'est des séminaires, des présentations de produits, etc. Des animations internes. Participer évidemment à des événements maritimes comme Fécamp Grande Escale, où on était sur la première édition et où on est à nouveau ravis d'être, d'autant plus que... on désespérait de voir le soleil en Bretagne, il a fallu qu'on se déplace en Normandie pour le trouver.
On désespérait de l'avoir aussi, hein. Je vous mens pas, c'était vraiment à deux doigts de pas l'avoir.
C'est comme pour nous, il est arrivé hier en fait.
Ouais, c'est ça.
On participe à des départs de course et le cinéma est une des activités effectivement qui vient compléter le panel. On a aussi plusieurs bateaux qui ont des vocations différentes.
Alors justement, oui, effectivement, on a l'Étoile du Roi qui a une valeur aussi patrimoniale et puis qui a un décorum vraiment spécifique. Là, pour le coup, c'est un très, très beau bateau. Et les deux autres, c'est...
Alors, Étoile du Roi était la réplique d'une frégate corsaire du XVIIIe siècle. On a un autre bateau corsaire, hein, Saint-Malo oblige, qui est le Renard, mm-hmm. pour lequel des sorties sont proposées plusieurs fois par jour. Donc c'est la réplique d'un bateau du début du XIXe siècle qui avait été armé à l'époque par Robert Surcouf.
Mm-hmm.
Et sur la fête, on a également Étoile Molène, qui est un Dundee tonnier de 1954, qui est un bateau extraordinaire de 120 tonnes. Les années 50, c'est le moment où... Les activités professionnelles maritimes ont basculé de la voile vers le moteur,
mmh.
notamment les activités de pêche. Donc tout ce que la France a su apprendre à faire pendant plusieurs siècles d'histoire maritime est un peu concentré sur ce bateau qui a vraiment des capacités maritimes tout à fait hors normes. Donc c'est un bateau pour le coup qui a été retrouvé il y a très longtemps, trentaine d'années, dans une vasière, qui a été reconstruit par l'entreprise et qu'on continue de faire vivre année après année. On lui a fait un grand carénage cet hiver avec une mise à blanc de son bois et la mamie de bientôt centenaire, enfin disons pour l'instant 70 ans, se porte bien.
D'accord, tout va bien. Alors moi, il y a la question qui me traverse comme ça l'esprit, c'est que voilà, restaurer des gréements ou en tout cas faire des reproductions à l'identique, c'est pas donné à tout le monde. Monter une entreprise autour de ça, il faut avoir quand même les reins solides pour se dire bon ben voilà, on va exploiter ce genre de comment on se lance là-dedans.
Il y a sans doute beaucoup de passion, un brin de folie, un brin de
conscience. Ouais.
c'est pas une aventure personnelle, c'est une entreprise qui existe depuis assez longtemps, qui a connu des hauts et des bas,
mm-hmm.
dont je suis le patron depuis une dizaine d'années. J'essaie d'y dépenser beaucoup d'énergie, mais aussi d'être un gestionnaire raisonnable. J'ai eu d'autres activités pour des entreprises, on va dire, beaucoup plus conventionnelles au préalable. J'ai appris à faire des choses assez rationnelles. Et par ailleurs, la rationalité est nécessaire pour que la passion puisse durer. Mais la passion est aussi nécessaire pour avancer sur des projets comme ça. Et la passion, c'est quelque chose de forcément partagé. Donc je travaille avec une équipe d'une dizaine de salariés à l'année qui ont autant d'envie et d'énergie que moi au quotidien. Chacun était à sa place et pendant la saison, on se retrouve à 30, 35, voire 40 au cœur de la saison. Tous passionnés avec des gens dont c'est le métier, avec des gens qui ont des profils atypiques. Alors ce sont tous évidemment des gens qui sont animés par la passion de la mer et des bateaux. Mais hier par exemple, on a transporté 70 personnes dans la journée, une trentaine en soirée sur Étoile du Roi, un des membres d'équipage. C'était un jeune officier dont le vrai métier est d'être sur les bateaux de CMA CGM qui a fait hydro à Marseille et au Havre.
D'accord,
un ingénieur, mais pour le plaisir de naviguer sur des bateaux comme ça, de retrouver les copains, il est là quoi.
D'accord. Ouais. Alors, c'est, il y a aucune part de mécénat du tout. C'est uniquement du chiffre d'affaires, le financement de la mise en œuvre de tous les travaux qui sont à faire sur les bateaux vient uniquement de la mise à disposition ou en tout cas de la de contrat que vous signez avec des demandes de prestations.
J'ai l'impression que je suis tombé dans une radio qui a pas mal d'argent. Donc si vous voulez nous donner un peu de sous, on est preneur. Mais non, c'est pas.
Si seulement c'était le cas.
Bon, je vais changer de sujet parce que vous allez finir par m'en demander.
Ah non, non, non. Non, non, c'est juste. En fait, j'ai du mal à saisir parce que voilà, je me dis que ces bateaux là sont. C'est pas des travaux qui sont. C'est pas des petits travaux qu'il y a à faire dedans en général. Quand on se lance dans une réplique, ça demande quand même des moyens assez solides, mine de rien. Enfin, je sais pas.
Alors le bateau a été acquis par l'entreprise. Il n'était pas neuf. En fait, l'histoire d'Étoile du Roi, c'est un bateau qui a été construit au départ par un producteur de cinéma anglais.
D'accord.
Qui cherchait un bateau à affréter pour des projets cinématographiques. Il n'a pas trouvé de bateau à affréter. Il a pris son courage à deux mains et il a construit le bateau.
Incroyable.
Qui donc a eu une première période sous pavillon anglais, qui a été repris il y a un peu plus de 10 ans. Comme je le disais tout à l'heure, l'acquisition du bateau n'est pas le problème. Évidemment, ça représente des sommes qui sont significatives. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est de trouver suffisamment d'argent, décennie après décennie, ou même hiver après hiver, pour pouvoir faire les travaux nécessaires, parce que ça subdivise en travaux, on va dire, courants, ou des choses qui sont directement liées à la réglementation. Mmh. Les canaux de sauvetage, l'incendie, etc. Et puis, prévoir de changer les mâts, changer les espars, retravailler sur les pavois, et parfois il y a des mauvaises surprises qui peuvent aller un petit peu plus loin. Donc, mais ça se construit dans un modèle économique.
D'accord. On va revenir sur des choses un petit peu plus historiques. Pourquoi avoir deux bateaux corsaires? Il y a une envie particulière par rapport à ça, une passion par rapport à ça, ou
Il y a une évidence, c'est que les ports d'attache de ces bateaux sont Saint-Malo,
ouais.
Et que Saint-Malo est un des grands ports corsaires français, avec Granville, Dunkerque, etc. Donc, je dirais que le renard est un des symboles de Saint-Malo. Mm-hmm. Quand vous arrivez à la gare de Saint-Malo, vous avez une belle maquette du renard qui est juste en face des trains. Quand vous arrivez par la 4 voies à Saint-Malo, vous avez des belles pancartes qui représentent le renard. C'est un des symboles de la ville. Surcouf était probablement un des corsaires, si ce n'est le plus célèbre. Et donc, c'était un des armateurs de Saint-Malo, de l'époque de ces messieurs de Saint-Malo, qui a donné beaucoup du caractère de la ville encore aujourd'hui. Et puis, Étoile du Roi, un peu plus ancien, puisqu'on est au XVIIIe siècle, pareil, est un bateau corsaire, dont le bateau d'origine avait été fait sur une plage de Saint-Malo, à Saint-Servan. Donc, c'est des bateaux qui sont... dans leur territoire.
Mmh. Sous quel règne ces bateaux-là, ces deux bateaux? Enfin, j'imagine que c'est pas tout à fait les mêmes époques, mais
Le renard, on est au début du 19e siècle, donc c'est une période napoléonienne. Mmh. C'était une époque où les corsaires étaient une activité qui était autorisée.
Oui, oui.
Par le roi, c'était une lettre de marque qui était remise. Au capitaine ou à l'armateur qui donnait autorisation d'attaquer, de trucider et de piller surtout des bateaux exclusivement ennemis de la couronne. Une grosse différence avec les pirates qui tiraient sur tout ce qui bouge.
Justement, on avait fait un peu le distinguo aussi juste avant. Et donc c'est bien de revenir sur ces lettres et sur ces autorisations spécifiques d'attaque. Vous l'expliquez très très bien, donc c'est intéressant de revenir dessus. Et donc, époque napoléonienne.
Oui, et donc Surcouf, il y a quelques bons mots qui sont attribués à Surcouf qui cultivait petite animosité avec les Anglais, évidemment, et c'était très réciproque. Mais c'était
nos ennemis de toujours.
Nos ennemis de toujours. Maintenant on n'a plus le droit, les boulets de canon, tout ça, les c'est même en période de Brexit, c'est quand même beaucoup moins bien vu. Il reste plus que le rugby, je crois, pour les oppositions farouches. Les Anglais disaient à Surcouf, Monsieur Surcouf, vous vous battez pour l'argent, nous battons pour l'honneur. Et Surcouf a répondu, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas.
Voilà. Excellente réponse. Donc ça, c'est pour le renard et pour l'Étoile du Roi.
Donc c'était une activité similaire hein, qui, euh, qui était très, très importante au milieu du XVIIIe siècle. À partir de la fin du XVIIe siècle jusqu'au quasiment 1820-1825. Mm-hmm. Donc ça a été plusieurs siècles d'histoire corsaire quand même à Saint-Malo, qui a été à une époque une ville importante en termes de richesse en France et appréciée du roi, puisque ça rapportait un impôt quand même relativement important. Des bateaux comme Étoile du Roi, c'était des frégates qui partaient avec 240 hommes à bord, une vingtaine d'officiers seulement. La plupart étaient il y avait des jeunes, très jeunes, juste à partir de 12-13 ans. Mmh. Qui on faisait frotter le pont, etc. Et puis, moyennant quoi, quand les bateaux revenaient avec des richesses pillées à l'ennemi, alors les richesses, ça pouvait être les cargaisons de ces bateaux, hein, qui revenaient de la route des Indes ou des Épices, par exemple, parce qu'il valait mieux attaquer des bateaux de commerce qui étaient moins armés, évidemment, bateau de guerre était la mauvaise rencontre. Ça pouvait être du cacao, etc. Mais on pouvait aussi prendre des bateaux à l'ennemi et aussi capturer l'équipage, puisque le code de la guerre s'appliquait dans la mesure, même si c'était une guerre privée, c'était quand même une forme de guerre entre la France et l'Angleterre essentiellement, mais d'autres pays également. Et quand les bateaux rentraient à Saint-Malo, y avait un juste dû qui revenait au roi de France, c'était l'impôt. Il y avait une partie qui revenait à l'armateur, l'actionnaire, et puis le reste était partagé entre les membres de l'équipage, le capitaine ayant un foie de plus que le gabier. Donc une société qui est finalement relativement proche de la nôtre. Et bon, dans un speech comme ça, quand on est mal loin, il y a une tradition, c'est de dire un peu de mal des Cancalais. C'est un village d'irréductibles gaulois. Et donc il y avait aussi des caisses qui tombaient à Cancale, qui est probablement la commune française qui a inventé la fraude fiscale.
D'accord. Voilà, tout est fait. On n'a oublié personne. Les Anglais, les Cancalais. Voilà, tout le monde en a pris pour son grade. On sent bien hein, l'esprit corsaire et malicieux qui vous anime. Alors, les bateaux qui sont présents ici à Fécamp Grande Escale pour cette édition sont visitables pour la plupart.
Oui, alors sur Étoile Molène et le Renard et d'autres bateaux qui font partie d'autres armements, l'Iris, la Grand-Villèze, etc. Vous pouvez naviguer plusieurs fois par jour. Il y a des navigations de prévues qui sont possibles.
Voilà, on vous l'a dit ce matin, les réservations, ça se fait à la billetterie, etc. Vous allez à l'office du tourisme. Vous avez les quais qui sont juste derrière le musée des pêcheries. C'est écrit en gros, vous pouvez pas vous tromper pour les sortir en mer. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, on a de la musique qui nous arrive en même temps. On continue sur les sorties.
Et puis pour les visites à quai des plus gros bateaux.
Voilà. On est interrompu par la musique.
Merci.
Hop. Voilà, c'était un petit clin d'œil d'un groupe. Alors, ils vont venir nous voir après, j'espère, pour faire un petit coucou au micro, ce serait super. On va continuer, on va terminer juste pour dire que au niveau des visites, donc.
Oui, donc pour les visites, vous pouvez acheter des tickets, c'est 3 euros par bateau. Vous pouvez acheter ça pareil aux mêmes endroits, la billetterie à l'office du tourisme. Donc vous achetez quelques tickets, puis vous choisissez les bateaux que vous voulez visiter. Ce sont les plus gros bateaux, bateau sur la fête, hein, le français, l'étoile du roi, etc. Hein, qui sont des bateaux difficilement manœuvrants, donc qui restent à quai. Et c'est très bien d'avoir des fêtes maritimes comme ça qui composent à la fois avec des bateaux à quai, c'est super pour la balade, et avec des bateaux en mer, parce que c'est super de voir ces beaux bateaux naviguer.
Voilà, tout est dit. Merci beaucoup pour toutes ces précisions historiques et puis ces précisions pratiques aussi pour visiter un petit peu l'ensemble de tout ce que vous proposez. Étoile Marine à Saint-Malo, croisière. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. On vous retransmettra le podcast si vous voulez le mettre aussi dans vos réseaux, etc. Pour l'heure, nous on va continuer en musique. J'espère. Alors, Hugo, je vais te charger d'aller chercher nos amis musiciens qui vont venir nous faire un petit coucou aussi. Le temps de faire une petite transition et puis on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup. Bonne continuation.
Merci. Bonne continuation à vous.
Salut.